Voici l'enregistrement du texte 2 de la princesse de Clèves, l'aveu à Monsieur Lafayette. Donc, comme d'habitude, je ne reviens pas sur le début de l'introduction. À vous de présenter Madame de Lafayette et le roman. Je situe rapidement le passage. Donc, on est dans la troisième partie et en fait, la princesse de Clèves se résout à avouer à son mari. Pour quelle raison ? D'abord parce qu'elle éprouve un sentiment de jalousie. Il faut se référer pour cela à l'épisode de la lettre qui précède ce passage, également parce qu'elle culpabilise, elle a éprouvé du plaisir à partager un moment en tête-à-tête avec le duc de Nemours. Elle a peur d'elle-même, peur de ne pas tenir ses résolutions, et enfin en fait elle est poussée par son mari à avouer puisque celui-ci la presse de revenir à la cour alors qu'elle s'est réfugiée à la campagne. Alors cet aveu est vraiment un passage central du roman, parce que c'est lui qui va enclencher le destin de la princesse de Clèves. Il a suscité de nombreux débats au XVIIe siècle, au moment de l'apparition du roman. En fait, on peut remarquer que la composition du passage est en trois parties. Tout d'abord, l'aveu de la princesse, puis un passage de transition dans lequel on a les réactions du prince de Clèves, et enfin la réponse du prince de Clèves. En projet lecture, on pourra se demander qui est le personnage le plus héroïque des deux. Alors, je commence le commentaire à la ligne 1. « Eh bien, monsieur », donc on a une interjection suivie d'une apostrophe, qui servent en fait à la princesse de Clèves à lancer son discours, à prendre du courage. Puis ensuite, on a une forme de théâtralisation de la scène, puisque elle se jette à ses genoux, ce qui est une attitude quelque peu excessive. Et enfin, apparaît le mot « aveu » à la ligne 2. Elle met en valeur cet aveu en le présentant comme un fait exceptionnel. On va retrouver à de nombreuses reprises le superlatif dans le texte, en particulier avec l'emploi récurrent de l'adverbe « jamais ». Ligne 2, « jamais fait à son mari ». Elle souligne qu'elle procède à cet aveu par une volonté de sincérité, innocence de ma conduite et de mes intentions, et elle se met ainsi en valeur en n'envisageant pas en fait le fait qu'elle puisse avoir d'autres motivations que l'innocence et l'intention d'être honnête avec son mari. L'aveu intervient à la ligne 3. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et que je vais éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Il faut remarquer tout d'abord que c'est un aveu indirect qui est à décoder par le prince de Clèves, puisqu'à la ligne 4, elle se contente simplement d'évoquer le mot péril. Il faut que le prince de Clèves comprenne qu'il s'agit d'un péril amoureux. Et elle explique aussi le fait pourquoi elle s'éloigne de la cour. On peut remarquer qu'elle emploie une tournure générale, avec l'emploi du pluriel, les périls, les personnes de mon âge. Elle se range dans une certaine catégorie et cette généralisation est aussi marquée par l'emploi du présent de vérité générale où se trouve. Il est intéressant de remarquer que cette phrase a été utilisée par sa mère au moment de la mort de la mère de la princesse de Clèves et que donc, de Madame de Chartres, et que donc, en fait, pour avouer, elle utilise les mots de sa propre mère qui est en quelque sorte dans le roman son guide moral, même lorsqu'elle est décédée. On remarquera à la ligne 5 une tournure qui est marquée par de nombreuses négations, nulle marque jamais de faiblesse, ce qui aboutit à une double négation et donc une affirmation forte. En fait, cette formule est utilisée pour rassurer le prince de Clèves. En fait, elle n'a jamais eu l'intention de manquer de respect vis-à-vis de son mari ou n'a jamais trompé son mari. Ligne 6, elle réitère sa demande de pouvoir quitter la cour et en fait, ligne 7, elle montre aussi à son mari qu'elle manque de repères, en particulier à cause de la perte de sa mère, Madame de Chartres, qui était encore une fois son guide moral. En fait, elle explique bien qu'elle ne peut pas toute seule venir à bout du problème qui l'occupe, à savoir la passion qu'elle éprouve pour le duc de Nemours. Il faut remarquer également que cet aveu est un demi-aveu, puisqu'en fait elle ne donne jamais le nom de celui qu'il aime et elle ne prononce pas le mot amour par exemple. Elle continue en demandant à son mari de s'excuser, de l'excuser, et elle oppose les mots sentiment et action, ligne 9, sentiment au début de la ligne, action à la ligne 10. On remarque ici en fait un positionnement janséniste qui vise en fait à dépasser les sentiments que l'on peut éprouver, hein, et à dépasser en particulier l'amour propre ou l'égoïsme que l'on peut avoir pour sa propre personne, en se montrant stoïque, en dépassant ses passions. Elle s'adresse ensuite directement à son mari en employant de nombreux impératifs, songez, conduisez-moi, ayez pitié, aimez-moi si vous pouvez. Donc elle renoue en fait le dialogue avec son mari après avoir beaucoup parlé d'elle. Et on peut remarquer qu'elle emploie le mot amitié, que ce mot est sans doute maladroit parce que c'est justement ce dont souffre le prince de Clèves, que la princesse de Clèves n'éprouve pour lui que de l'amitié et non pas de l'amour. Le mot estime est important puisque elle montre qu'elle veut conserver la relation qu'elle entretient avec son mari, et cette idée de continuité est réaffirmée à la ligne 13-14, aimez-moi encore si vous pouvez, elle veut rester dans la même relation que celle qu'elle avait déjà avec Monsieur de Clèves. On passe ensuite à la deuxième partie du texte avec la réaction de Monsieur de Clèves qui est également une réaction héroïque, était demeurée pendant tout ce discours. On peut remarquer en fait que ce moment de transition, ce passage de description, sert en fait à montrer les réactions du prince de Clèves et également à montrer le choc qu'il atteint. En fait, on est dans une scène de pause où on vit au même rythme en fait que le prince de Clèves. Donc son attitude est assez théâtrale, il est immobile, demeuré, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même. Et il continue en fait à éprouver de l'amour pour sa femme, puisque on voit la princesse de Clèves par son propre regard à la ligne 17, d'une beauté si admirable. Le champ lexical dans les lignes précédentes, le champ lexical du regard dans les lignes précédentes est important. Jeta les yeux sur elle, la vit à ses genoux. La scène est toujours très théâtralisée avec le visage de la princesse de Clèves qui est couvert de larmes. On peut ensuite montrer qu'on va connaître d'avance la réaction du prince de Clèves puisque il semble lui pardonner avec ses actes, l'embrassant, la relevant. On passe ensuite au troisième mouvement qui est le discours de Monsieur de Clèves, donc la réponse du prince de Clèves. On peut remarquer tout d'abord, ligne 19, qu'il reprend les propres mots de la princesse, « Ayez pitié de moi », hein, ce qu'elle lui a demandé, la ligne 12, « Ayez pitié de moi », donc il y a une forme de complicité ou d'écho à ce que lui a demandé la princesse. Et il reprend également lui-même une forme de... Il emploie l'apostrophe madame pour lui-même lancer son discours. Il répond également à la princesse de Clèves en apportant la notion de dignité, chez ligne 19, j'en suis digne, à celle d'estime qui avait été évoquée par la princesse de Clèves. Il lui demande également pardon, donc toute cette première ligne en fait est un écho à ce qu'a pu dire la princesse de Clèves. Il affirme son admiration pour la princesse, toujours en employant cette tournure récurrente dans le texte, plus digne au superlatif d'estime et d'admiration, et réapparaît l'adverbe jamais qui a été présent à de nombreuses reprises dans le texte auparavant. On peut remarquer ici que ce superlatif est un superlatif spatial, qu'il n'y a jamais eu de femme au monde, et qui va répondre à l'autre superlatif qu'on trouve dans la phrase suivante, « Je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été », qui lui, en fait, est un superlatif spatial, hein, temporel, pardon, qui situe le prince de Clèves dans le temps, c'est l'homme le plus malheureux de tous les temps. On peut remarquer donc les tournures semblables qui sont employées dans ce texte. les mots employés par le prince de Clèves sont bien différents de ceux qu'il a employés pour la princesse, puisqu'il emploie le mot de passion. Et il y a une tonalité pathétique à la ligne 24, puisqu'en fait, il fait référence au moment du coup de foudre qu'il a éprouvé pour la princesse de Clèves, et coup de foudre qui n'est pas réciproque dès le premier moment que je vous ai vu. Et il continue à réaffirmer sa passion, toujours présente, 25, non plus l'éteindre, avec la métaphore du feu, qui est un topoï pour évoquer la passion. Elle dure encore. Il emploie également, à la ligne 26, le mot amour. Enfin, il établit un bilan, un constat. Je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Suit ensuite un mouvement de colère du prince de Clèves qui est marqué par une série de questions. Ce sont des questions qui sont très courtes et on peut considérer que ce sont des questions rhétoriques parce qu'en fait elles n'attendent pas de réponse. Alors la première porte sur l'identité de son rival. Qui est-il? On peut remarquer le jeu de reprise. Qui est-il? Homme, qui vous donne? Il y a une insistance sur l'identité de l'amant de la princesse de Clèves et on peut noter peut-être une tonalité ironique dans l'emploi de cet homme heureux, ironique, qui se retourne contre le prince de Clèves, qui n'a pas le bonheur d'être aimé par la princesse de Clèves. Puis une série de questions très courtes. Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? On peut remarquer que l'expression quel chemin peut-être, et bien sûr à employer au sens figuré, il peut peut-être faire référence à la carte du tendre, ou en tout cas au parcours amoureux. Qui figure dans de nombreux romans à l'époque. La dernière phrase est une phrase de conclusion. Je m'étais consolée en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. Ce qu'explique le prince de Clèves, c'est que en fait, il se consolait en pensant que la princesse de Clèves était insensible de façon générale à l'amour, et il se rend compte qu'il était une fois de plus dans l'erreur. En conclusion, on peut d'abord donc souligner l'importance de ce passage et rappeler qu'il est relativement invraisemblable dans la mesure où le duc de Nemours se trouve assister à la scène de façon indirecte et que cela va lui confirmer qu'il peut penser que la princesse de Clèves l'aime, même si elle ne fait pas l'aveu du nom de son amant. Pour répondre à la problématique, on peut avoir des arguments en faveur de la princesse de Clèves ou en faveur du duc de Nemours, en faveur pardon, du prince de Clèves. En effet, la princesse de Clèves se montre héroïque parce que finalement elle va au-delà de la bienséance et elle fait preuve d'un élan de sincérité très marqué, en tout cas qui est conforme à l'éducation qu'elle a reçue, et elle paraît se conformer à la ligne de conduite morale qui lui a été enseignée. Mais on peut aussi considérer que Monsieur de Clèves est héroïque dans le sens où il est à la hauteur de sa femme et dans le sens où il prend finalement le parti de réitérer son amour à quelqu'un qui est en fait en train de lui exprimer des sentiments qui sont très violents à son encontre. En ouverture, on pourra se demander si ce n'est pas ce passage qui va sceller le destin de la princesse de Clèves et qui va finalement entraîner une tragédie pour chacun des personnages.